Le journal Jean-Claude Toumba Kamanga.
Bonjour, les opérations mixtes FARDC et MONUC se poursuivent contre les miliciens, notamment la bande Peter Karine. Les FARDC soutenus par les casques bleus ont pris la localité de Nyoka depuis hier, une zone où ces bandes armées régnaient à maître. Nous écouterons le porte-parole militaire de la MONUC dans ce journal. Les Nations Unies préoccupées par la réunification des services de sécurité de la RDC. La résolution 1649 du Conseil de sécurité adoptée mercredi dernier à New York demande au gouvernement congolais d'accélérer la réforme du secteur de sécurité. L'ONU reconduit également l'embargo sur les armes à l'est de la RDC. Nous irons à Butembo où l'ONG Global Right a peint hier un tableau sombre sur la justice congolaise dans les provinces de l'est du pays. Dans son rapport intitulé SOS Justice, cette ONG dénonce le mauvais fonctionnement de la justice et les tracasseries des personnes vulnérables. Province orientale, les FARDC appuyés par la MONUC poursuivent la chasse aux miliciens. La dernière nouvelle, c'est la prise depuis hier de la localité de Nyoka. Information livrée par le porte-parole militaire de la MONUC. Nyoka est située à environ 80 km au nord-est de Bunia. C'est la zone où les bandes à l'ex-milicien Feni Peter Karim régnaient en maître. Pas encore de bilan de ces dernières opérations, mais la MONUC affirme que les troupes des FARDC s'emploient actuellement à sécuriser la zone autour de Nyoka. Le porte-parole militaire de la MONUC, le lieutenant-colonel Frédéric Médard.
Actuellement, les FARDC sont à l'approche de Nyoka et sont en train de sécuriser les abords de cette ville.
Est-ce qu'on peut dire que la bande à Peter Karine est en déroute?
Bon, écoutez, là, pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que face à l'avancée des FARDC soutenus par les militaires de la MONUC, les miliciens sont en train de se replier. Il n'empêche qu'il y a eu un certain nombre d'accrochages avec les FARDC. Après avoir consolidé les positions sur Nyoka, l'objectif sera également Kwandroma avant de poursuivre en direction de la frontière ougandaise.
Est-ce qu'on peut déjà avoir un bilan de ces opérations?
Je n'ai pas actuellement de bilan à vous donner. De toute manière, l'objectif final est d'atteindre Mahagi où, le long de la frontière, sont déployées en arrêt des unités des FARDC.
Restons toujours dans cette province orientale pour évoquer la visite jeudi dernier du commandant de la 9e région militaire à Bafoua-Sendé. Nous sommes là à 260 km à l'est de Kisangani. Le général Padiri Boulenda s'y est rendu justement pour appeler les détenteurs des armes à les remettre aux FARDC. Le général Padiri a également adressé un ultimatum aux groupes armés et autres Maïmaï à qui il donne une semaine pour quitter les mines d'or et le parc de Maïko. Une correspondance de Dorcas Kankou.
À Bafoua-Sendé, le commandant de la 9e région militaire est allé réinstaurer l'autorité de l'État dans cette partie de la province orientale considérée comme un fief des Maïmaï. Ces hommes, commandés autrefois par Michigan, s'étaient rendus maîtres du lieu et ont fait subir beaucoup de tracasseries aux populations civiles. Raison pour laquelle le commandant de la 9e région militaire a commencé par présenter ses excuses à l'assistance avant de lancer son appel aussi bien qu'en direction des civils que des hommes en armes. Le départ des Maïmaï de Bafoua-Sendé à destination de Kisangani a déjà commencé. Ils devront intégrer les centres d'orientation où ils décideront de la poursuite ou non de la carrière militaire. Cette intervention du commandant 9e région s'est terminée par un ultimatum. Les récalcitrants qui se retrouveront encore dans les carrières retrouveront le FARDC sur leur chemin. Ceux-ci seront amenés à utiliser la force pour faire respecter les instructions militaires. Kisangani, Dorcas Kankou, Radio Okapi.
Direction New York, où le Conseil de sécurité veut voir le gouvernement de la RDC réunifier au plus vite les services de sécurité. C'est ce qui ressort de la résolution 1649, adoptée mercredi dernier à l'unanimité par le Conseil de sécurité. Cette résolution élargit l'embargo sur les armes dans l'est de la RDC. L'entrée en vigueur de cet embargo est annoncée pour le 15 janvier 2006 et devrait expirer le 31 juillet de la même année. Eugène Kabandi.
Par cette nouvelle résolution 1649, l'embargo sur les armes s'appliquera également aux responsables politiques et militaires des groupes armés étrangers qui opèrent en RD Congo. Il s'agit essentiellement de ceux qui font obstacle au désarmement, au rapatriement ou à la réinstallation volontaire de leurs combattants dans l'est du pays. Sont également visés des responsables politiques et des milices congolaises qui reçoivent un soutien de l'extérieur du pays, comme par exemple des milices qui opèrent dans l'Ituri. C'est ainsi qu'un accent particulier est mis sur l'accélération du désarmement de ces groupes armés, une opération pour laquelle le Conseil demande instamment au gouvernement de la transition de la RD Congo de mener à bien la réforme du secteur de la sécurité Réforme qui doit se faire par la prompte intégration des forces armées et de la police nationale. Les autorités congolaises sont également appelées à veiller à ce que les forces armées et la police reçoivent en temps utile un salaire et un soutien logistique approprié. Pour terminer, les conseils ont en outre exigé que les gouvernements de l'Ouganda, du Rwanda, de la RD Congo et du Burundi prennent des mesures pour faire cesser l'utilisation de leurs territoires respectifs en soutien aux violations de l'embargo sur les armes.
À Kalemi, dans le nord Katanga, des ex-combattants ont manifesté jeudi dernier. Ils ont fait un sit-in devant les bureaux du programme des Nations Unies pour le développement. La raison avancée par ces ex-combattants, le retard dans la paie du filet de sécurité. Il s'agit d'une subvention accordée à ces ex-combattants. Au PNUD, on estime que ces ex-combattants devraient plutôt s'adresser à la CONADER. Une correspondance d'Expédit Mwamba Mubi.
Ils étaient une centaine à manifester devant les bureaux du PNUD, tous des démobilisés qui réclamaient le paiement du filet de sécurité, avec pour beaucoup des arriérés de 2 à 3 mois, nous a indiqué un témoin de cet événement. La MONUC et la police congolaise ont dû intervenir pour calmer les manifestants. Mais c'est seulement à la vue de l'agent payeur dépêché par la CONADER que la tension a baissé. Les ex-combattants ont pu toucher leur filet de sécurité. Toutefois, les responsables du PNUD Academy disent ne plus vouloir servir de bouc émissaire. Ils expliquent que la gestion de la subvention mensuelle appelée filet de sécurité ne leur revient pas, mais plutôt à la Commission nationale de démobilisation et réinsertion. Nous avons fait savoir à la CONADER et aux ex-combattants que le paiement du filet de sécurité, tout comme les réclamations y afférentes, devront dorénavant être portées devant l'administration locale, nous a déclaré M. Haroun Dan Malam, conseiller provincial du PNUD. Expédit Mwamba Mubi, Radio Kapi Kalemi.
Rendons-nous à Butembo, où la justice à l'est de la RDC va mal. C'est le constat de l'ONG Global Rights dans son rapport présenté hier vendredi à Beni. Ce rapport concerne l'évaluation de la justice dans les Kivu, Maniema et Nord-Katanga. Ce rapport intitulé SOS Justice et quelle justice pour les populations vulnérables à l'est de la RDC dresse l'état des lieux de la justice dans la partie orientale du pays. Le point avec Étienne Mouindo.
Des insuffisances sérieuses au niveau du nombre des magistrats et des tribunaux, des moyens matériels, de la formation du personnel paralysent le fonctionnement de la justice à l'est. Dans le secteur de Butembo-Lubero, par exemple, l'unique tribunal de grande instance se trouve à 150 km de certains des justiciables. Le rapport de Global Rights critique les interventions des acteurs non judiciaires dans le secteur de la justice. L'État congolais ne garantit pas l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le rapport évalue également l'accès à la justice pour les populations vulnérables comme les victimes de violences sexuelles. De nombreux obstacles comme la crainte de représailles, la pauvreté, l'ignorance des droits ou encore l'éloignement géographique incitent les victimes à se taire. Les rares victimes qui portent plainte se trouvent encore plus traumatisées par la justice. Très souvent, l'auteur du viol ne coupe que d'une peine minime. De plus, il arrive que la peine ne soit même pas purgée. Butembo, Etienne Mwindo, Radio Kapi.
À Kinshasa, le pasteur Théodore Ngoï, enfin libre de ses mouvements, il a été relâché mercredi dernier après 5 jours de détention dans les cachots des services spéciaux de la police à Kinmazière. Cet avocat, qui est aussi candidat au futur présidentiel, a été arrêté en pleine campagne référendaire alors qu'il militait pour le non au projet de constitution de la Troisième République. Il a dénoncé hier sur Radio Okapi ses mauvaises conditions de détention à Kinmazière, ici à Kinshasa. Toujours à Kinshasa, le gouvernement japonais vient d'accorder 900 000 dollars américains à l'UNICEF RDC. Ce fonds est destiné au programme d'éducation des filles à l'âge préscolaire et du niveau primaire. Mohamed Malik Fall, chargé de programme développement et éducation de l'enfant à l'UNICEF, explique comment cette instance des Nations Unies compte employer cet appui financier. Il est au micro de René Capital.
Ces fonds sont destinés essentiellement à 3 provinces, le Katanga, le Kasaï oriental et le Kasaï occidental. Les interventions vont porter dans le domaine de l'éducation du jeune enfant, c'est-à-dire l'encadrement des enfants de moins de 5 ans et bien sûr l'enseignement primaire. Dans le domaine du jeune enfant, nous allons essentiellement travailler à la mise en place d'espaces d'éveil, parce que vous savez que un des facteurs de bon départ dans la vie, c'est que toutes les activités de stimulation intellectuelle, de développement cognitif de l'enfant à l'âge préscolaire. Nous, on comptons aussi doter les enfants de matériel didactique, appuyer la formation des encadreurs de ces espaces, mettre en place des facilités dans le domaine de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement dans ces espaces. Au niveau de l'enseignement primaire, nous allons continuer à appuyer à peu près 350 écoles ciblées dans les trois provinces. Un autre point qui va figurer au titre de ce projet, c'est le renforcement des capacités des partenaires au niveau local. En partenariat avec l'UNESCO, nous allons organiser une évaluation des acquis scolaires. Parce qu'une chose, c'est que les enfants soient à l'école. L'autre chose, c'est qu'est-ce qu'ils apprennent à l'école.
Parlons d'un autre don, cette fois à Kindu, l'aire de santé de Kampene dans le territoire de Pangui vient de bénéficier d'un don de 1500 kg de médicaments de la part de la Synergie Verte. C'était le dimanche dernier. Cette zone de santé manque des médicaments de première nécessité depuis plus de 3 mois. Les médicaments de première nécessité offerts en formation médicale de Pangui sont destinés aux malades internés et ceux qui fréquentent des soins dans les postes et centres de santé. Boussaga Soumaïli, coordonnateur de l'ONG Synergie Verte, dans ses propos recueillis par Toumba Mobilé.
Vous allez profiter pour amener 1,5 tonne de produits pharmaceutiques de première nécessité. Pourquoi ? Parce que tout simplement, à l'époque, cette zone de santé, la zone de santé de Pangui, était pour la plupart du temps servie par le quai. Et ils se sont retrouvés à un moment donné avec une rupture de stock et ils m'ont fait une demande à laquelle j'ai tout de suite répondu positivement. C'est ainsi que j'ai amené tout ce dont j'avais besoin. Et cette quantité a servi à donner d'abord au prix des mini, c'est-à-dire les dispensaires de l'aile qui va de 36 km jusqu'à Kampene et Tama. Et je suis en train de m'organiser pour acheter notre lot que je vais amener d'ici là pour servir presque toute la zone de santé.
Est du pays, toujours au nord, Kivu, le Lions Club Ishango de Beni voudrait profiter des fêtes de fin d'année pour aider les personnes vulnérables de cette ville. C'est l'objet de la kermesse ouverte officiellement mercredi dernier à Beni. Cette kermesse compte plusieurs stands à qui le Lions Club exige une taxe allant de 50 à 20 dollars américains. Au-delà des fêtes, cette association projette d'assister les personnes vulnérables de Beni avec le fruit de la kermesse. On écoute Jean-Claude Lutangi, membre du Lions Club, au micro de Charles Ntrichia.
Le Lions Club Ishango collecte de l'argent de deux manières. L'exposant paye son droit de stand. Donc avant d'occuper une place, nous avons certains critères que nous allons donner aux gens suivant les catégories. Donc ici, notre façon de collecter l'argent a pris fin lorsque l'exposant avait payé son droit de stand. Le reste pour nous, c'est de récupérer l'argent à la porte. C'est ça. Nous récupérons quelque chose symbolique avec quelque chose que nous allons récupérer des billets pour voir après dépenses si on va rester avec combien et réaliser quelle œuvre.
Et par ce temps, de vous demander combien d'argent ?
Ça dépend, il y a des catégories de 50, il y a des catégories de 40, de 20, voire même de 10, il y en a.
Traversons le fleuve pour aller au Congo-Brazzaville. Premier meeting public de Bernard Kolela à Brazzaville depuis son retour d'exil. Cet opposant congolais a indiqué au cours de ce meeting qu'il allait prendre contact avec le pasteur Ntoumi afin de mettre fin au désordre du pool. Bernard Kolela n'a par ailleurs rien dit sur l'amnistie générale de tous les exilés politiques du Congo-Brazzaville que réclame l'opposition interne. Le point avec Arsène Séverin.
C'est devant des milliers de militants que Bernard Kolela, visiblement fatigué, s'est engagé à prendre contact avec le pasteur Ntoumi pour mettre fin au désordre du pôle. Mais d'abord, j'en parlerai au chef de l'État, a-t-il dit. Ce vieil opposant de 70 ans a aussi informé que des armes avaient été ramassées par les ninjas et se trouveraient stockées à Matumbo, à quelques 150 km au sud-ouest de Brazzaville. Par ailleurs, l'ancien premier ministre de Pascal Lissouba, qui vient d'être amnistié par le Parlement congolais, n'a rien dit sur le retour des autres dignitaires de ce régime déchu, toujours à l'étranger. Ceci malgré les appels de l'opposition interne. Il y a quelques jours, le MCDDI, le parti de Bernard Kolela, avait suspendu sa participation à la coalition de l'opposition, le CODA. Il a enfin invité les populations à soutenir le président Denis Sassou Nguesso pour ses efforts de paix qu'il ne cesse de fournir dans le pays. Arsène Séverin, Brazzaville, Radio Capi.
Brève de sport pour finir. Coupe d'Afrique des Nations de basketball à Abuja au Nigeria. 3e victoire d'affilée des Simba Dames de la RDC. La sélection nationale de basket conduite par Mouadi Mabika Yuyu et Pekinini a battu hier son homologue du Niger par 88 points à 40. Ce soir, les Simba Dames basket rencontrent les Angolaises. C'est leur dernier match du premier tour de cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations de basketball. Retrouvez les détails de toutes ces informations sur notre site www.radiocapi.net. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter joyeux Noël à tous et bonne suite de programme sur Radio Okapi.